ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public.
Au cœur des enjeux du service public.
Nos experts décryptent des thèmes essentiels.
Des thèmes essentiels.
Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre.
Pour comprendre, participer et agir.
Participer et agir.
Minutes sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à vous. Ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h. On est en direct, évidemment, comme chaque matin, avec toujours la même équipe qui prend du plaisir à vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro, Nahla Bekralas. Comme vous le savez, c'est le deuxième jour des examens pour les candidats au brevet d'enseignement moyen. Et puis, dans moins de deux semaines, c'est au tour des candidats au bac d'être mis à l'épreuve des examens. Deux examens, comme vous le savez, certainement source de stress pour les candidats et les parents, des parents qui deviennent d'ailleurs de plus en plus exigeants avec leurs enfants à la recherche des meilleures notes, de l'excellence parfois, le BEM et le bac à tout prix. La réussite de son cursus scolaire d'une manière générale détermine désormais la place de l'enfant au sein de son école, de sa famille et même au sein de la société. Plus il a de bonnes notes, mieux il est écouté, considéré. Quel impact sur la santé mentale de l'enfant? Comment faut-il accompagner son enfant au mieux vers la réussite? Y a-t-il un seul chemin d'ailleurs vers la réussite? C'est la question qu'on se pose ce matin. Pour répondre à cette thématique, nous avons le plaisir ce matin de recevoir Dr Nassera Khamen, qui est maître assistante en pédopsychiatrie à l'hôpital psychiatrique donc de Chiraga, et Kenza aussi avec nous, coach Kenza, qui va évidemment nous donner des conseils sur comment accompagner au mieux son enfant. Nous allons détailler toute cette thématique dans un instant. Restez avec nous, il est 10h06 sur Alger 3. On vous retrouve dans quelques minutes.
قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني شوفوا شوفوا حالي لا فيها بوهالي قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني
ستتن الهي تجاتي كراسي النور هي تدرهقت وردو بغنك يباني اسنك يباني ستتن الهي تجاتي كراسي النور هي تدرهقت وردو بغنك يباني اسنك يباني
تنهينا
مشان اجا اقولي انت ارهيت
Ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public.
Au cœur des enjeux du service public.
Ça vous concerne ? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir.
Merci de nous rester fidèles sur Alger Chin3. Bienvenue à vous dans votre espace. Ça vous concerne. On est ensemble jusqu'à 11h. J'espère que cette émission portera ses fruits auprès de vous et qu'on donnera les conseils qu'il faut et on éveillera un peu votre savoir vivre et votre bien-être aussi au sein de la famille et puis au sein de la société avec nos invités ce matin à qui nous souhaitons la bienvenue. Alors, Madame Kenza Beljilali, qui est connue sous le nom dans les réseaux sociaux sous le nom de Kenza Coach. Bonjour Kenza, merci d'être parmi nous ce matin. Et avec nous aussi docteur Nasser Khmar, maître assistante en pédopsychiatrie à l'hôpital psychiatrique de Chiraga. Bonjour docteur, merci Bonjour. D'être parmi merci nous ce matin. Alors on disait tout à l'heure, l'émission aujourd'hui va porter sur effectivement, donc il y a un contexte, c'est les candidats du BEM qui passent leur deuxième jour d'épreuve ce lundi, et puis il y a le bac dans deux semaines, mais il n'y a pas que ça, il y a tout un cursus, toute une année scolaire que les enfants passent parfois sous la pression des parents, sous la pression des bonnes notes qu'il faut absolument avoir, et puis le stress augmente au fur et à mesure que l'année passe avec ces examens qui ponctuent l'année, notamment le BEM et le bac. Alors c'est notre sujet ce matin, comment aujourd'hui porter conseil à ces familles pour éviter, parce qu'il y a un impact sur la santé mentale qui est indéniable, qui est établi aujourd'hui. Les enfants souffrent de cette situation. Coach Kenza, on vous a avec nous ce matin. D'abord, on va expliquer aux auditeurs quel est votre rôle, quelle est votre mission dans ce chantier, et puis pourquoi ce sujet vous tient tellement à cœur.
Très bien. Bonjour Nella, je suis très contente d'être parmi vous. Donc, je me présente, donc Isabelle Jelly, je suis master coach en santé et bien-être. C'est un sujet, au fait, qui me tient à cœur et il est important parce que d'abord, je suis maman et j'ai une adolescente, une magnifique adolescente qui nous écoute justement, donc Sophia.
Et Sophia, que nous saluons. Elle était là avec nous la dernière fois.
Oui. Et aussi parce que j'ai beaucoup de parents et des enfants aussi qui viennent me solliciter, que ce soit des jeunes ou des parents, oui. Par rapport à le stress qu'ils vivent. Au fait, il y a beaucoup de stress. On n'a jamais mais on les habitue, nos enfants, à apprendre l'information, mais on leur a jamais appris à gérer leurs émotions. Oui. Du coup, des fois, il y a un manque d'information, que ce soit les parents. Hein, la RALB, c'est aussi une pression qu'ils vivent parce qu'ils l'ont déjà vécu déjà petit. Donc, c'est une programmation. Et les enfants, des fois, ils ne savent pas comment gérer tout ça. Donc, ma mission actuellement, c'est d'en parler aux parents. Oui. Parce que la pression, elle vient des parents et des enseignants et du niveau scolaire et de l'environnement. Et aussi sensibiliser les jeunes, les lycéens et t'as le collège aussi, CEM, ceux qui passent le BEM. Mais c'est un examen comme un autre et qu'il faut juste gérer ça avec temeto, avec de la joie. Et c'est pas la peine de se mettre dans tout son état ou la pression qui impacte aujourd'hui leur sommeil, leur joie, leur fait de la pression, de la comparaison, un manque de bad, ça impacte leur confiance en soi, il y a un manque de reconnaissance des efforts. Donc tout ça, j'en ai fait une mission aujourd'hui pour en parler autour de moi, parce que moi, mon objectif, c'est que les enfants ikbrou avec une confiance qui est renforcée et aussi informer les parents que c'est juste une pression supplémentaire et qu'il faudra switcher en psychologie positive et encourager leurs enfants, parce que ça sécrète l'hormone du bonheur quand on dit merci, bravo, j'ai confiance en toi. Au contraire, ça va beaucoup les aider. Et gérer ça dans le calme et la sérénité, même l'ambiance à la maison, elle va être favorable pour leur révision.
Mais les parents sont programmés, comme vous le dites. Hein. En fait, c'est l'éternel recommencement pour eux. Et c'est à eux peut-être qu'il faut s'adresser.
Je pense qu'il faudra d'abord s'adresser à eux, parce qu'ils refont le même schéma.
Exact.
Chaque année, ils refont ce qu'ils ont déjà vécu.
Là, en parlant, je me remémorise un peu.
Même moi, je me suis rendu compte quand à un moment donné, jusqu'à prise de conscience, on est là qui m'a côté prendre conscience de ça. Et déjà, le fait de prendre conscience de cette situation, déjà, c'est 50% du travail.
Oui.
Blé, on est en train de répéter les mêmes schémas qu'on a vus, qu'on voit autour de nous et qu'il est temps maintenant de revoir les choses.
Oui.
Parce que ça ne va pas servir nos enfants.
Docteur Nasser Ahmad, vous êtes maître assistante en pédopsychiatrie. Et vous êtes là justement pour alerter ses parents sur la situation. Mais les parents, en fait, ils veulent bien faire. Hein. Ils veulent que leurs enfants réussissent, qu'ils obtiennent de bonnes notes, qu'ils puissent avoir accès aux universités qu'ils désirent. Et c'est tout là la question. Alors pourquoi les parents font cela? Pourquoi ils tiennent à tout prix à mettre cette pression, ce stress? Pour eux, c'est le seul chemin pour arriver au résultat.
D'accord, merci pour la question. Alors tout d'abord, il faut reconnaître que les difficultés scolaires déjà chez les enfants constituent un motif de consultation très fréquent à notre niveau.
Oui.
Alors les enfants viennent avec leurs parents qui s'inquiètent trop par rapport à leur scolarité, mais malheureusement sans prendre en considération l'état initial de l'enfant. C'est-à-dire parfois l'enfant il a des difficultés liées à lui-même, c'est-à-dire un fonctionnement intellectuel par exemple au-dessous de la normale, par exemple un dyslexique ou quelqu'un qui a un retard mental léger par exemple. Des fois ils ont des troubles émotionnels associés, par exemple un enfant très anxieux, un enfant parfois déprimé. Cet état-là ne permet pas à l'enfant de répondre positivement aux attentes des parents. C'est-à-dire, il est dans un état où il est accablé, il n'arrive pas à assimiler ni à répondre correctement lors des examens. Ça, c'est un point très important. Parfois, on tombe sur des enfants qui ont subi des harcèlements à l'école, des violences, même des violences sexuelles, ça, on n'en parle pas assez.
Oui,
voilà.
Ça existe, oui.
Mais malheureusement, les parents ne sont pas au courant de leurs enfants. Mais en discutant avec l'ensemble des parents, on trouve à peu près trois catégories. La première catégorie, ce sont des parents qui s'inquiètent par rapport à la scolarité. C'est dans la perspective de protéger l'enfant d'un avenir, à vrai dire, flou, c'est-à-dire loin d'un diplôme, d'une profession noble, comme la médecine, l'architecture,
oui.
Ou une profession bien déterminée, bien identifiée.
Oui.
Là, ils veulent tout faire pour pousser l'enfant à avoir de bonnes notes. Ça, c'est important. Deuxième cas de figure, ce sont des parents qui subissent la pression de la société.
Oui.
Vous l'avez déjà dit, la note égale la réussite à l'école, égale la performance parentale, égale la valeur de l'individu.
Oui.
Oui, malheureusement, les parents ils subissent ça et ils vont le projeter sur leurs enfants. Troisième cas de figure, et ça existe, ce sont les projections parentales. Ce sont les actes manqués.
Oui.
Ce sont la réussite manquée. En tant que parent, j'ai raté d'être un médecin.
Et je veux que mon enfant rattrape.
Exactement, loin de son niveau, loin de son rythme scolaire. Mmh. Voilà, tout ça fait des parents, ils les rendent dans un état d'exigence, ils veulent tout faire, ok, ils veulent tout faire devant cet enfant pour avoir de bonnes notes, et bonnes notes, je dis, relativement à la société.
Voilà, donc c'est pour un peu trouver sa place dans la société,
oui,
et puis répondre aux exigences que placent très haut d'ailleurs les parents. Alors, le niveau de stress, coach Kinza, est-ce qu'il est aussi important chez les jeunes? On en parle ce matin, on parle de ces candidats au BEM, ces candidats au bac, mais est-ce qu'il y a un niveau de stress vraiment important? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour tout le monde?
Moi, en fait, j'alerte par rapport à ça parce que comme elle a dit, docteur
Khamer,
on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas de ce qui se passe à l'école ou au lycée ou le CEM. Et je les vois aussi, ils stressent parce qu'ils veulent faire plaisir aux parents.
Oui.
Ils ne veulent pas les décevoir. Mmh. Ils ont peur de l'échec. Ils n'ont pas avec qui en parler. Des fois, ils ont besoin juste d'être écoutés. Et aussi, je remarque qu'il y a beaucoup de maladies en ce moment qui m'a récemment... Il y a un lycéen avec qui j'ai discuté. Carrément des cas de psoriasis, des cas d'anxiété, de plus en plus d'anxiété. En plus, il y a la comparaison. Il y a une faible estime de soi. Et du coup, ça fait que c'est des jeunes qui commencent à douter de leur capacité. Après, il y a beaucoup de pression aussi par rapport au programme scolaire.
Oui.
On en parle, ils deviennent de plus en plus... C'est un peu plus... On demande à ce que les jeunes apprennent au lieu de comprendre. Et même les méthodes utilisées, parce qu'il y a des enfants qui sont visuels, il y a des enfants qui sont auditifs. Ils ne sont pas gamins, donc c'est la même façon d'apprendre. Donc, ce n'est pas orienté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents s'inquiètent parce que leurs enfants ils en ont marre d'étudier ou de cette pression. La plupart, il y a un décrochement scolaire parce que ça devient trop compliqué. Et on n'est plus dans la joie d'apprendre, on est plus dans la pression et dans la performance. Et ça, les stress, les parents, quand ils stressent, il y a les neuromiroirs, l'enfant stresse, et on reste dans ce cercle vicieux. Et au lieu d'en parler et trouver des solutions, même avec le staff éducatif, les enseignants, normalement, on devrait travailler tous ensemble, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, c'est l'enfant, c'est son bien-être. Et aujourd'hui, les enfants ne veulent plus étudier. La façon d'étudier n'est pas compatible pour tout le monde. On leur demande d'apprendre, on leur demande beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, ça devient trop de pression, et ce qui impacte maintenant, ils deviennent plus en plus stressés et ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc aujourd'hui, il y a une urgence. Déjà, l'urgence, elle a commencé pendant le Covid, on n'en a pas parlé. Maintenant, c'est des enfants qui sont en train de subir, mais sans qu'il y ait un accompagnement avec eux dans ce sens.
Alors justement, l'écoute de l'enfant, c'est quelque chose qui est très très importante pour l'accompagner dans son cursus scolaire. C'est ce que vous avez constaté, en tout cas, docteur Hammer, quand vous avez des enfants qui viennent chez vous, ils n'ont pas d'écoute de leur part, de la part de leurs parents, de la famille éducative, ils se retrouvent tout seuls.
C'est une réalité, malheureusement. Ça, c'est ce qu'on a constaté sur les familles modernes, est-ce qu'il y a un canal de communication qui est absent entre les parents et leurs enfants. Le malheur, c'est que presque, je dis bien presque, hein, tout le monde est connecté à Internet, mais personne n'est connecté à l'intérieur de la maison. Alors, on ne connaît même pas l'enfant, il pense à quoi, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il rêve de quoi.
On le surveille juste s'il a pris son cahier pour réviser ou non.
Et au cas extrême, ce qu'il a mangé ou pas.
Oui.
Voilà. Donc, le manque de communication entre les parents et leurs enfants, oui, ça, c'est un constat. Malheureusement, les enfants, en arrivant à un autre niveau, c'est la psychiatrie, donc ils arrivent dans
le stade ultime
de l'évolution de leur détresse psychologique, et malheureusement à ce niveau-là les parents ne les accompagnent pas, c'est-à-dire ils sont toujours dans le déni, et parfois lorsqu'on annonce des diagnostics, les parents arrêtent le suivi psychiatrique, malheureusement. Donc ça aggrave la situation des enfants. Donc l'écoute, le dialogue à l'intérieur de la famille, c'est vraiment primordial pour le développement, parce que même si on parle de l'autocontrôle ou de la régulation émotionnelle, c'est un processus qui se développe dès la naissance. Donc si les parents sont absents les premiers mois de la vie, ou bien les premières années de la vie, l'enfant est déjà exposé aux écrans, les parents sont détachés, sont pris par la vie, là l'enfant il va se développer sur des modèles à peu près on va dire hybrides, des modèles hétérogènes qui correspondent pas ni à la société, ni à notre culture, ni aux attentes des parents. C'est-à-dire on développe un individu anxieux dès la naissance, il pleure, on lui donne l'écran, on lui donne sa tablette, et à l'adolescence par exemple on se trouve heurté contre le mur, pourquoi il n'écoute pas, pourquoi il fait pas ses études, pourquoi il s'intéresse pas à la famille.
L'écoute est permanente dès l'enfance, il faut vraiment l'instaurer. Coach Kenza, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus?
J'allais dire oui, aujourd'hui quand on observe, hein, des fois comme ça je commence à observer, je regarde des parents, c'est alarmant, hein. Moi des fois ça me choque, ils sont derrière leur portable, les enfants avec le portable. Moi, c'est, j'ai de l'image à dire. Et après, comment on va... On joue plus avec les enfants. On n'écoute plus les enfants. Il n'y a plus de connexion à la nature. Plus, aujourd'hui, l'enfant, il a besoin de sortir de cet isolement. On a l'impression qu'on les a isolés derrière un portable, juste pour que les parents ne s'en occupent pas. Oui, allez, là, les parents aussi, ils ont leur pression aussi. Oui. Mais moi, je pense qu'il y a un accompagnement à faire les parents et pour les enfants, les deux. Il y a un manque d'information. Et j'aurais aimé aussi les écoles. Je ne sais pas, moi, j'ai vu l'école, par exemple, à ma fille, il y a des psychologues et tout. J'aurais aimé voir ça, que ce soit généralisé un peu partout et qu'il y ait des cercles de parole avec les enfants, les parents.
Il
y
a consacrer peut-être une séance à cela.
Une séance à cela. Ça commence à se mettre en place. Je vois qu'il y a eu des organismes qui ont organisé des cercles de parole parents, enfants, pour gérer tout ça. Et ça devrait être de plus en plus généralisé. Parce que ça devient très important, parce que c'est en même temps les parents et en même temps les enfants. Et je dirais même les enseignants, parce que même au moins ils jouent leur rôle, et même l'école.
Alors, nous avons posé justement la question à ce sujet, donc le sujet, donc l'impact de ce que font les parents pour exiger le meilleur de leurs enfants, et puis donc l'impact sur sa santé, sur la santé mentale des enfants, à professeur Gara Sabrina, qui est experte aux Nations Unies et commissaire experte au comité des experts africains pour le droit et le bien-être de l'enfant à l'Union africaine. Professeur Gara, bonjour.
Bonjour Nahla, merci de m'avoir permis à participer à cette émission et je profite avant tout de cette belle occasion pour souhaiter d'abord bonne fête à tous nos enfants, à tous les enfants qui se trouvent en Algérie, sur le sol de notre cher pays, de notre Algérie, et aussi à tous les enfants du monde, et principalement et particulièrement une grande, grande pensée aux enfants palestiniens, aux enfants Gazaouis. Donc, à chaque fois que l'occasion se présente pour nous, principalement lors de ces occasions où il est toujours opportun de revenir sur les thématiques clés, sur les problématiques, sur les réalisations, les efforts, mais pas que, aussi sur ce qui reste encore à réaliser pour le bien-être de l'enfant et pour son épanouissement, pour aussi construire l'avenir de cet enfant et pour son lendemain. Et donc, vu cette journée, il est toujours donc souhaitable de rappeler les différents droits de cet enfant, revenir sur ses principaux droits auxquels il doit jouir régulièrement, constamment, surtout que ces droits sont intercorrélés hein, du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de la participation et le droit d'être entendu, jusqu'au droit au divertissement, au loisir, au sport, en passant par le droit à la santé et le droit à l'éducation. Parlant du droit à l'éducation, la question pose problème, cette fois-ci en l'excès. L'Algérie quand même a réalisé un chiffre très important, un pourcentage très très important en matière de scolarisation, et voire même à l'échelle internationale et aussi africaine. Mais là, on aimerait bien réfléchir sur cette question de qualité de l'éducation et quels sont les paramètres qui sont liés à cette qualité de l'éducation. Donc, nonobstant tout ce qui concerne les programmes, les réformes, la relation enseignant-élève, etc., il y a aussi d'autres paramètres qui concernent la vie de l'enfant en dehors de cet établissement scolaire. Comment se passe cette vie et comment la scolarité est pensée et réfléchie au sein de la cellule familiale. Donc, nous observons hein, régulièrement les différentes difficultés auxquelles sont liées à ce sujet-là concernent cet enfant qui est sous pression, qui vit la pression, pas que lui, ses parents aussi, parce qu'il n'a pas été à l'image de ses parents, il n'a pas été à l'image de l'investissement, il n'a pas été au niveau de cet investissement, donc de ses parents, parce qu'il n'a pas fait suffisamment, il n'a pas obtenu les résultats attendus. Et donc, ce qui a transformé cette relation, la relation parent-enfant, parfois mère et enfant, en une relation scolaire, pratiquement scolaire, qui ne répond pas aux besoins de l'enfant vivant son développement normal et allant vers son épanouissement. Donc tout est concentré sur la scolarité. Donc l'enfant idéal, c'est l'enfant qui est excellent à l'école et l'enfant qui obtient de bons résultats. C'est cet enfant qui est idéalisé dans l'imaginaire et dans les représentations des parents. Et l'enfant qui n'arrive pas donc à être bon et excellent au niveau scolaire, c'est l'enfant qui a échoué, mais pas que, c'est aussi les parents aussi qui échouent à travers ça. Et donc, vous voyez cette relation un peu donc élève contre enfant, enfant contre élève, et ces systèmes hein, qui se chevauchent, le système scolaire et le système familial, qui parfois aussi se chevauchent, mais aussi qui s'en mêlent par moments et carrément qui prennent la place. Donc, dans tout ça, l'enfant n'a pratiquement plus de place. Le développement de l'enfant qui doit être une priorité pour les parents, l'épanouissement de l'enfant qui doit être une priorité pour les parents, et l'investissement affectif, l'investissement social, l'investissement donc relationnel, la socialisation, etc. Ce sont tous ces ingrédients qui font que l'enfant va progressivement donc aller vers son autonomie, adopter son projet de vie, se sentir confiant, affirmé, pour pouvoir carrément s'accaparer de son projet, qui est aussi de ses différents projets, mais un de ses projets qui est le projet scolaire, et du coup de s'approprier ce projet. Donc tout ce cycle, ou plutôt tout ce process que les parents n'ont pas très bien saisi et vu par faute de temps, par aussi donc cette vie moderne fait que nous voulons tout faire rapidement, même faire les choses à la place de l'enfant, même donc travailler à la place de l'enfant, faire les fiches de révision à la place de l'enfant, etc., pour faire vite, pour obtenir les résultats, mais on n'aide pas l'enfant à ce niveau-là. Nous ne sommes pas en train de l'accompagner, bien au contraire, nous sommes en train de trouver des solutions à sa place et de l'handicaper à ce que lui-même puisse prendre ses propres décisions quand il est face à des difficultés et à des problèmes, et qu'il apprenne comment dépasser ses propres problèmes et ses propres difficultés. Donc, les risques peuvent être encourus. Ce sont des risques dans le sens où on peut se retrouver face à des désengagements. Ça devient le projet des parents et non pas le projet de l'enfant. Et je dis bien l'enfant et non pas l'élève, parce qu'au fait, c'est à l'intérieur de l'établissement scolaire que cet enfant a le statut de l'élève. En dehors de ça, il devient carrément enfant, et normalement, donc, le système familial n'a pas à prendre en charge, ou n'a pas à continuer tout le travail qui se fait en matière de scolarité. Le rôle est surtout au niveau de l'accompagnement, et surtout au niveau donc de travailler cet épanouissement, travailler cette socialisation, travailler le bien-être principalement. Donc, toute la question est autour justement de cette approche au sein du système familial, de cette contenance au sein du système familial, donc, et de toutes les interactions qui se font à travers les liens parents et enfants.
Ça vous concerne. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre.
Pour comprendre, participer et agir.
Participer et agir.
10h31 sur Alger-Chin 3. Merci de nous rejoindre dans votre espace. Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de l'impact du stress, de la pression sociale sur l'enfant, sur sa santé mentale. Je vous propose de marquer une petite pause, une petite respiration musicale, et on vous revient.
ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public.
Au cœur des enjeux du service public.
Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir.
10h36 minutes sur Alger Chin 3. Merci de nous rejoindre dans votre espace, ça vous concerne. Nous parlons ce matin de la santé mentale de l'enfant, de l'impact du stress et de la pression, notamment à l'approche des examens. Vous savez que les collégiens et puis les lycéens vont bientôt être mis à l'épreuve et sont mis à l'épreuve pour les collégiens, donc cours pour l'année scolaire 2024-2025. Nous parlons de cela justement, de l'accompagnement des parents, comment il doit se faire avec nos invités. Alors nous avons avec nous Kenza Beldjilali, qui est connue sous le nom de Coach Kenza. Et nous avons aussi avec nous Dr Nasser Ahmar, qui est maître assistante en pédopsychiatrie. Alors, le rôle des parents dans tout ça, il est important, hein, parce que quand on se sent mal, quand on n'est pas bien, quand on a des soucis à l'école, c'est évidemment vers les parents qu'on se retourne. Alors, quel rôle joue-t-il justement pour éviter que cela impacte la santé de leur enfant?
Oui, très bien. Alors moi, ce que déjà autant que maman, et aussi ce que j'observe, ce que je dis toujours aux parents, la première des choses, c'est l'écoute. Écouter ses enfants et travailler aussi le langage interne avec leurs enfants. Déjà, demander comment ils se sentent. Demander, c'est juste des fois des questions très simples. Comment tu te sens? Et aussi avoir de l'information, c'est-à-dire communiquer avec les enfants. Le fait de les écouter, c'est déjà la moitié du travail. Déjà, ça, c'est très bien. Après, il y a aussi, deuxièmement, les parents devraient, au fait, des fois, il y a un manque d'information. Hein. On n'est pas là pour juger parce qu'on est tous passés par là, donc c'est normal. C'est aussi apprendre à changer, switcher. De parler, au lieu de dire tu dois aller travailler, mais plutôt tu es en train de faire de ton mieux, je suis fière de toi, tu es capable, j'ai confiance en tes capacités. Vraiment switcher le langage avec ses enfants et de les coacher, c'est-à-dire vraiment être des parents coach, être là pour les motiver, être des mentors, les accompagner, les écouter, parce qu'un parent, c'est important. Le parent, c'est pratiquement la figure, c'est la personne la plus inspirante pour un enfant. Mettre en place des moments, des rituels à la maison. Ça, c'est le troisième conseil ou recommandation. Oui. Mettre en place un rituel où il y a des routines de bien-être, des sorties de temps en temps. C'est pas parce qu'il passe le bac qu'il doit que étudier, parce qu'il y a un risque de saturation. Et quand le cerveau est saturé, c'est bon.
Le rendement n'y sera pas productif.
Oui. Oui. Donc, mettre en place des rituels, des petites tisanes, sortir, faire voir un film, faire une activité ensemble, ça va leur faire du bien, déjà pour les parents et pour les enfants aussi. Et aussi, alors, il y a la quatrième, c'est répéter les affirmations positives et de créer, au fait, un cocon émotionnel. De telle manière à ce que l'enfant se sente dans la joie, pas dans la pression, pas dans la colère, pas dans la, mais plutôt être dans la joie et être. Je vous ai dit, moi, la meilleure chose à faire, c'est d'être des parents coach et de gérer, apprendre aux enfants à gérer leurs émotions.
Et ça s'apprend d'être coach, c'est facile à faire.
Bien sûr, c'est facile à faire. C'est juste au fait ne pas oublier qu'on est des êtres humains. Et qu'on est déjà passé par là. Gaki Marana, on était cette lycéenne ou ce lycéen qui avait la pression. Oui. Et se souvenir comment on était et comment on aurait aimé qu'on nous parle. Et on aurait aimé qu'on nous soutienne, qu'on nous mette moins de pression, qu'on nous écoute, qu'on... Voilà. Et la meilleure chose qu'on puisse faire pour nos enfants, c'est de leur apprendre à se faire confiance et à remplir leur estime d'eux-mêmes, parce que on est plus dans la performance que d'armer nos enfants à être plus dans la confiance en soi. Et c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour autant que parents, c'est d'apporter de l'amour, de la bienveillance et aussi une sécurité émotionnelle.
Très bien. Et donc l'estime en soi, c'est très important, la confiance. Et les parents, justement, ne veulent que ça, hein, le bien-être de leurs enfants. Ils travaillent là-dessus, justement. Quand les parents donc, sont dans le désarroi, ils viennent vers vous, docteur Rahma, donc, au niveau de l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment la dernière chance pour eux de rétablir ce lien avec leur enfant, de le sortir un peu de la situation dans laquelle il se trouve. Quelles sont les conséquences justement de ce stress, de cette pression à laquelle est soumis l'enfant? Vous les recevez, quelles sont les conséquences?
Alors il faut le dire qu'à notre niveau, on reçoit des enfants de une année jusqu'à, on va dire, à 18 ans, 19 ans. Donc ce sont la petite enfance et les enfants, puis il y a les adolescents. Mmh. En fonction de l'âge, on a pu identifier quelques particularités.
C'est grâce à l'étude que vous avez menée au niveau de l'hôpital.
Alors si on prend l'exemple de la petite enfance, on a reçu beaucoup de cas qui sont, on dit pas scolarisés, qui sont socialisés dans des crèches. Et malheureusement, ils viennent nous consulter pour dire qu'un enfant de 4 ans, il n'arrive pas à écrire parfaitement ou à lire. Mmh. On se trouve souvent dans le paradoxe. Alors, l'enfant à l'âge de 4 ans, il a besoin de jouer, il a besoin d'explorer et non pas d'écrire ou de réciter. Ça, c'est un constat. On reste souvent étonné devant les réactions des parents. Alors, comment il va être scolarisé l'année prochaine? Ils s'inquiètent déjà par rapport à l'avenir scolaire de l'enfant.
Et parfois, ils sont scolarisés à un jeune âge, à 4 ans, 5 ans.
Exactement, exactement. Certainement, il y a des enfants qui répondent, qui sont là, qui ont de bonnes capacités mentales.
C'est pas le cas de tout le monde.
Exactement. Oui. Ça, c'est important. La deuxième catégorie, ce sont des enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire au niveau du primaire. Là, l'enfant, il est dans la compétition, oui, mais les exigences parentales, là, on met les attentes très hautes ou la barre très haute. Là, les enfants, ils peuvent tomber dans ce qu'on appelle des troubles anxieux sévères et même dans de la dépression, une véritable dépression.
À un jeune âge, déjà.
Exactement. Oui. On a reçu des cas avec des troubles sévères, un refus scolaire absolu. Ils rejettent l'école à 100%. Ils veulent plus aller à l'école. Voilà. Des dépressions, oui. Des troubles anxieux, oui. Des troubles de conduite alimentaire, on a discuté de ça avant. Oui, ça, c'est fréquent à cet âge-là. Mais le plus, on a noté quelques cas de fugue, c'est-à-dire des enfants qui quittent leur domicile suite à la pression que mettent les parents sur leur dos.
C'est fréquent comme situation?
Les fugues, c'est pas fréquent, mais c'est noté. Voilà, ce sont deux ou trois cas durant cette année.
Très bien.
Voilà. Si on parle de l'adolescent, là, on a tout vu avec les adolescents qui consultent à notre niveau. Déjà, cette année, on a recensé à peu près 26 cas d'adolescents scolarisés en troisième année lycée, c'est-à-dire ce sont des candidats pour le bac. Mmh. 26 cas qui sont venus dans des cas différents. On a recensé 5 tentatives de suicide suite à des exigences parentales pures. Mmh. Il y avait des cas où ils ont développé des troubles psychiatriques graves comme les psychoses. Et pour éclairer un petit peu, psychose, ça veut dire le trouble psychiatrique le plus redoutable. Ce sont des patients qui vont se dénuder dans la rue. Ce sont des patients qui peuvent être très agressifs envers leur entourage ou bien envers leur corps. Ce sont des expériences très difficiles pour l'adolescent, mais aussi pour la famille et pour tout l'entourage. Et souvent, c'est un trouble qui est chronique. Chronique. Certainement, il y a une note génétique, mais je parle de l'exigence parentale comme facteur déclenchant de la maladie.
Ça fait vraiment peur, hein, tout ça.
C'est
vraiment.
Oui, c'est dramatique, je le sais, mais il faut le dire.
Il y a eu même des cas de mutilation.
Ça, c'est très fréquent, on le voit fréquemment à notre consultation, les scarifications, elles sont là pour soulager cette pression. Et on parle de la pression en général, mais les exigences parentales constituent un facteur majeur dans ces troubles du comportement comme les scarifications.
Alors comment justement détecter cela juste avant d'arriver à ce cas désespéré où l'enfant vraiment pense au suicide?
Il faut le dire que c'est un processus. Oui. Hein, ça commence pas d'emblée par une tentative de suicide ou bien par un refus d'aller à l'école, par un burn-out comme on le nomme. Il faut observer son enfant. Déjà, un enfant qui était toujours joyeux et on remarque qu'il y a un changement de son fonctionnement, qu'il devient un peu irritable, un peu agressif, il faut se méfier.
On ne colle pas ça à l'adolescence, changement d'humeur, non.
Pas souvent. Il faut préserver l'adolescence comme la crise d'adolescence comme diagnostic d'élimination. C'est-à-dire, il faut tout éliminer et puis s'il nous reste la crise d'adolescence, on va la gérer tranquillement. Ça, c'est important. Deuxième point, ce sont les troubles du sommeil. Il y a des adolescents enfant qui veille jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, avec un, sur les écrans, avec un contenu non contrôlé, un contenu des fois agressif, un contenu de la pornographie par exemple, un contenu qui est inadapté à notre société, à notre culture, ça c'est important. Les troubles du sommeil peuvent se présenter par des réveils nocturnes, par des cauchemars, ou dans le cas extrême, on trouve une hypersomnie, c'est-à-dire l'enfant, il est clinophile, il est collé toute la journée à son lit et il est somnolent toute la journée. Ce sont des critères, des signes d'appel qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un autre élément par rapport à la détresse psychologique, par rapport à c'est les problèmes de la relation. C'est-à-dire un enfant qui devient très opposant, très agressif, très audacieux envers ses parents, qui ne respecte plus les normes. Certainement, on parle de l'adolescence, que c'est la période de la remise en question de toutes les valeurs, de toutes les normes, mais il y a des limites, il y a toujours des limites. Oui. Si les limites ne sont pas respectées, ici, il faut suspecter le burn-out, il faut suspecter que l'enfant il est en détresse psychologique. Et il y a un autre signal d'appel, c'est la régression sur le plan comportemental. Par exemple, c'est un enfant qui devient de plus en plus dépendant de ses parents, il ne veut pas dormir seul, il ne veut pas sortir seul, ça c'est un signal d'alarme. Un autre symptôme très très important, c'est le désinvestissement scolaire. Si l'enfant n'a plus envie de lire, de, malgré qu'il était auparavant dans un état de motivation, qu'il était dans la scolarité normale, entre guillemets, s'il y a un désinvestissement scolaire, il faut chercher, peut-être derrière ça, il y a des symptômes en faveur du burn-out. Et dans tout ça, il faut, on le dit toujours, il faut surveiller, il faut observer son enfant, il faut discuter avec son enfant pour repérer le changement du fonctionnement.
Oui. Alors, Coach Kenza, les parents, l'école, la société ont tous une part de responsabilité dans cela. Ils doivent être ici à l'écoute. C'est ce que vous avez remarqué, vous, sur le terrain?
Oui, j'ai remarqué aussi, parce que moi, les enfants, après, tu remarques que, au fait, quand on est programmé avec des drivers de stress, ça impacte aussi au niveau du développement professionnel. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc après, il y a des impacts aussi, les conséquences dans la vie personnelle et la vie professionnelle.
C'est-à-dire même s'il réussit, mais même par s'il la suite, réussit, ça le rattrape.
Ça va rattraper. Oui, ça va le rattraper. C'est incroyable. Oui. Hein. Par exemple, il y a 5 drivers de stress. Moi, ça, à chaque fois, j'alerte aussi quand je suis en formation au niveau des entreprises, parce que c'est des parents aussi, ils s'inquiètent et tout. Je leur dis, voilà, juste prendre la conscience qu'il y en a 5 drivers de stress. Le premier driver, c'est le soi parfait. C'est quand vous parliez de l'enfant à 4 ans qui ne sait pas écrire. Attendez, mais 4 ans, il joue. Donc, on veut la perfection pour l'enfant. Il faut qu'il sache écrire, sache parler. Même quand il fait coloriage, il faut que ce soit parfait. Dans le soi parfait, il a le droit à l'erreur. Il ne sait pas encore écrire. On prend son temps. Le deuxième driver, c'est le fait vite. C'est le driver du « Aïe, on fait vite sur le Kbrnaga. Oui, l'école, aïe, fais vite, fais vite. » Là, ça va enclencher un stress parce que l'enfant, à chaque fois tu lui dis « Aïe, fais vite, va réviser, fais vite. » Ça va lui enclencher un driver. Déjà, il va te programmer au stress. Il y a un autre driver qui est le « Sois fort ». Le soi fort, c'est l'enfant qui apprend à ne pas... il est toujours fort, il ne dit pas ce qu'il ressent. Et du coup, on a du mal après à savoir ce qui ne va pas.
Oui.
Parce qu'il veut pas, on lui a appris à être fort et ne pas pleurer. C'est-à-dire, je le vois souvent avec les parents quand l'enfant de 2 ans il tombe, un garçon, oui, tarajl, metpkish. Non, il doit pleurer, au contraire, c'est normal. Après, il y a le soi, le fait plaisir.
Oui.
C'est généralement les enfants qui veulent faire plaisir à leurs parents, c'est-à-dire ils veulent avoir la bonne note.
L'enfant modèle.
L'enfant modèle qui ne sait pas dire non, qui reçoit la pression, mais allez, je veux faire plaisir. Mais on le retrouve après dans le milieu professionnel, c'est généralement les personnes qui ne savent pas dire non et ils reçoivent la pression. Et le dernier driver, au fait, fait des efforts. Je le vois beaucoup avec les parents. Les Kenza, est-ce que tu peux le coacher? Il a révisé, il doit faire encore des efforts. Et généralement, c'est des personnes qui seront toujours insatisfaites malgré Wushi, ce qu'ils vont faire comme effort, mais ils ne seront jamais satisfaits des résultats. Donc, l'ADO, c'est les drivers. L'ADO, il faut... On va dire, on n'avait pas cette information. À chaque fois, je sensibilise les parents et aussi les enfants par rapport à ces drivers. voilà, pour prendre conscience et qu'on peut, il y a des antidotes, on peut travailler en disant je fais de mon mieux, j'ai tout le temps qu'il faut pour mes révisions, mmh, et que je peux faire des erreurs et je peux aussi pleurer. C'est normal. C'est normal.
Il faut au contraire
le faire. Au contraire, il faut le faire.
Il faut les encourager à le faire.
Exactement.
Docteur Rahmar, est-ce que l'enfance est vraiment le berceau en fait, de tous les troubles que l'on peut développer par la suite étant adulte? À quelqu'un qui vient consulter chez vous, est-ce que forcément le trouble il a été développé ou il a commencé quand il était enfant?
Alors ça, on ne le dit pas d'une manière formelle.
Oui.
Tout trouble psychiatrique a plusieurs déterminants. Le premier déterminant, c'est la biologie. Donc, s'il y a un déterminisme génétique, on est prédisposé génétiquement à une maladie psychiatrique, ça va apparaître à un certain moment, quelles que soient les conditions de la vie. Oui. Deuxième partie, c'est si on parle de l'entourage. Oui. Si l'entourage familial ou l'entourage d'une manière globale était vraiment violent, maltraitant et n'était pas vraiment à la réponse positive envers l'éducation de l'enfant ou bien par rapport aux attentes des enfants, parce que les enfants, eux aussi, ils ont des attentes, là, ça peut aggraver tout ce qu'on appelle les troubles anxieux-dépressifs, c'est-à-dire tout ce qui trouble de l'humeur. Oui. Ça va aggraver, ça pourra déclencher. Et il y a un autre élément, c'est le sujet lui-même. S'il fait des efforts, s'il vit dans des conditions, c'est-à-dire il reçoit une bonne éducation, il fait des expériences, il se développe au fil du temps, oui, il peut développer ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à faire face, et cela veut dire que malgré un entourage maltraitant ou violent, il pourra réussir. Donc dire d'une manière formelle que tout trouble qui apparaît à l'âge adulte est secondaire à l'enfance, non, on ne le dit pas d'une manière formelle, ça dépend de plusieurs paramètres.
Très bien. Le juste milieu, est-ce qu'on peut le trouver justement quand on est parent et quand on veut que son enfant réussisse d'une part, donc il est important pour que son enfant s'épanouisse, et justement trouver le milieu entre l'enfance, lui permettre de jouer, de profiter de son enfance, ouais, et en même temps réussir. Comment on peut trouver ce juste milieu? C'est vraiment délicat comme question, non?
Oui, je suis d'accord avec toi, Nahla. Après, il faut toujours trouver un équilibre. C'est l'équilibre, moi je trouve, pour tout le monde, hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent, il faudra avoir des indicateurs sur l'équilibre des piliers de vie. Oui. Les piliers de vie, le premier pilier, c'est la santé et le bien-être. Ça, c'est le premier.
Parce que c'est placé en priorité.
En priorité. Oui. Ça, je classe ça, on ne trouve pas ça sur Internet, hein, c'est dans les livres. Donc le premier. Le deuxième, c'est la connexion à la nature. Oui. C'est tout ce qui est développement spirituel. Voilà, se connecter à la nature, jouer, sentir la terre. Ça, ce qui manque en ce moment, hein, ça manque beaucoup. Et aussi, avoir ces phrases-là qui... avoir cette yaqin, cette croyance et cette... Oui. Que je vais réussir, que mon enfant va réussir.
La foi est importante.
Voilà, oui, très importante. Le troisième, c'est la relation. C'est entre les parents, la famille, être là, le soutien, le support, l'écoute, la communication, ça c'est très important, c'est en troisième pilier, c'est un équilibre. En fait, c'est la scolarité, imagine, alors santé, bien-être, la connexion, après c'est les relations pour qu'on retrouve la scolarité, les résultats, et dire que les résultats, les notes, ça ne définit pas l'enfant.
Exact, oui.
Ça ne le définit pas.
Oui. Le professeur Gara disait tout à l'heure que c'est vraiment, dans le milieu familial, on retrouve l'élève, c'est une relation d'élève à parent qui est établie au sein de la famille.
Exactement. Et oui, un autre pilier aussi, c'est avoir des moments de relaxation pour l'enfant. Il faut écouter ses besoins, ce qu'il a besoin, être aussi, jouer avec lui, il a besoin de jouer, parce que le jeu aujourd'hui, c'est, selon la neuroscience, c'est là où il y a l'apprentissage, c'est là où il y a des nouvelles connexions neuronales, c'est que on veut des enfants carrément automatiques, alors que avec le jeu, l'apprentissage est plus rapide, il y a de nouvelles connexions, apprenons à jouer avec les enfants tout en apprenant. Oui. C'est-à-dire que lui rendre ça, c'est-à-dire reprendre le plaisir d'étudier, le plaisir de faire ses devoirs. Oui. C'est-à-dire qu'on est là et leur dire, voilà, ça c'est vraiment le plaisir du savoir.
Et comment on peut être certain que l'enfant fait le bon choix quand on lui laisse un peu cette liberté, on va dire? Les parents ont peur que leur enfant se perde dans cette liberté. Oui, je vais le laisser tranquille, à son rythme. Quand est-ce qu'il faut avoir l'élément déclencheur?
Alors, je pense qu'il faut tout d'abord d'abord revoir une question très importante. Oui. C'est les compétences de parentalité.
Bravo.
Et parmi les compétences de parentalité figure le fait de connaître le normal de ce qui n'est pas normal. Oui. C'est-à-dire, il faut apprendre, il faut s'informer. Vous êtes parent, vous avez un enfant de 2 ans, 3 ans, allez lire sur tout ce qui est normal à cet âge-là.
Oui.
Comme ça, vous pourrez répondre correctement à ses besoins.
Oui.
Ça, c'est
il faut s'informer.
Exactement. Oui. Deuxième compétence parentale très importante, c'est le fait de pouvoir accompagner l'enfant selon son rythme.
Oui.
Et ne pas mettre des barres trop hautes, il faut l'accompagner. Il a un niveau moyen, restons sur le niveau moyen.
Oui.
Il est excellent, d'accord, on est avec lui dans son excellence.
Très bien. Alors, évidemment, il y a des conseils qu'on peut avoir justement pour gérer cette situation. Et vous les avez, ou on peut même les retrouver sur les réseaux sociaux.
Est-ce
que vous pouvez nous donner une petite idée sur ça?
Alors, j'en ai fait une mission.
Oui.
Moi, aujourd'hui, il y a une nécessité. Il y a beaucoup de parents qui viennent me voir pour se former et être informés.
Oui.
Parce que des fois, ils n'ont pas l'information. C'est pas que... Ou il y a aussi une programmation. Donc, j'utilise beaucoup de... En fait, je fais des masterclass pour les parents. Et la plupart, ça donne des résultats extraordinaires parce que des fois, il suffit juste de revoir certaines programmations et éveiller les consciences. Et ça donne des résultats pour les enfants. Et aussi du coaching et les outiller à justement affronter parce que chaque âge a sa façon d'accompagnement. L'enfant, c'est Hadja, l'adolescence, c'est autre chose. Et apprendre aussi, j'utilise beaucoup la communication, j'utilise des outils, je les outille avec
d'ailleurs,
comment
qu'on peut
communiquer.
Retrouver,
exactement.
Oui. Qu'on peut retrouver donc sur la page.
La page.
Kenza.coach, c'est
bien
cela.
Kenza.coach, oui. Instagram. Et aussi sur LinkedIn, je partage beaucoup pour les parents aussi au milieu professionnel. Donc, Kenza aussi, Beljilali sur LinkedIn.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Bien sûr, tout peut changer, transformer
les choses.
Ça, c'est la bonne nouvelle.
Voilà.
Tout peut changer.
Tout peut changer. Et grâce
il suffit juste de
bon...
le vouloir
oui.
et aussi apprendre. Parce qu'on apprend à chaque âge et reprogrammer notre cerveau. C'est possible.
Très bien. Merci beaucoup, Kenza Beljilali. Je rappelle que vous êtes connue sous le nom de Kenza Coach, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et docteur Nasser Ahmar, merci beaucoup. Vous êtes maître assistante à l'hôpital psychiatrique de Chiraga. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à Hakim Belmoussa qui est à la réalisation, Samir à la technique, Yassine au streaming et Hussein à la régie d'antenne. Et à demain.